Radio Suisse Romande la première, comme chaque dimanche soir, migration avec vous jusqu'à 21h. Bonsoir à tous. Pour vous informer et vous divertir, Ivor Malherbe en régie et au micro, Monique Pierry. Ce soir, migration accueille Juliana Abriel et Florio Toni, tous deux avec un accent fleuron bon le soleil. Beaucoup de gens dans ce pays parlent des étrangers. Eux, ils font quelque chose pour les étrangers, ce qui revient à dire, pour ceux qui calculent, qu'ils œuvrent à la fois pour les étrangers et la Suisse, car les étrangers d'aujourd'hui seront les Suisses de demain. Périodiquement, en migration, on aime bien donner la parole soit aux institutions qui s'occupent des migrants, aux institutions internationales ou des institutions plus régionales comme aujourd'hui le CCSI, le Centre de contact Suisse immigrés. Il y a des CCSI un peu partout en Suisse romande et même en Suisse alémanique. Nous avons choisi celui de Genève que nous avions déjà reçu à propos de l'intégration des enfants clandestins. Donc cette intégration de 4 à 15 ans étant réglée, nous allons parler d'autres sujets aujourd'hui comme la post-formation à partir de 15 ans, peut-être aussi de différents autres problèmes qui entourent l'intégration, qui ne sont pas scolaires, mais différents, comme les relations avec les familles, et puis aussi de tous les autres objectifs du CCSI, comme instituer peut-être un droit de vote un jour, favoriser ce droit de vote des étrangers qui sont là depuis des années. Certains cantons le pratiquent déjà, d'ailleurs. Et aussi, on parlera du journal du CCSI, c'est très important, l'information. Carrefour, journal du Centre de contact Suisse immigrés. Nos deux invités ce soir, tout d'abord Juliana Abriel, qui est italienne d'origine, qui est enseignante et qui aujourd'hui travaille chez nous dans le social, et Florio Toni, qui est psychologue scolaire et qui travaille dans l'enseignement public à Nyon. Vous vous occupez donc, Florio Toni, du CCSI, à quel titre exactement, à Genève?
J'en suis le président.
Le président, ni plus ni moins.
Je m'occupe...
Il est modeste, c'est même pas marqué sur le papier à lettres.
Non. À côté de mon travail professionnel qui est d'être psychologue scolaire dans une école depuis plusieurs années avec une belle bande de copains, nous avons monté cette institution.
À Genève, vous avez votre siège à la rue Simon Durand. Ça se trouve où, dans quel quartier de Genève?
Ça se trouve un petit peu à la limite entre Genève et Carrouge.
Voilà.
Et c'est là que le centre de contact a ses locaux, qu'un certain nombre d'associations d'immigrés ont aussi leurs locaux où elles tiennent leurs réunions.
Vous êtes groupés.
Et en fait, c'est là que quotidiennement le centre est ouvert les après-midi pour un premier accueil. Et c'est là que l'activité au fond du centre de réflexion, d'accueil des familles, d'accueil des gens, des travailleurs, se fait donc aux Acacias, à l'adresse que vous venez de citer.
Voilà, ah, c'est proche des Acacias. Donc 9 rue Simon Durand, 1227, oui, ça c'est le numéro postal de Carrouge, Genève. Et vous avez donc un accueil avec une permanence, des conseils, un journal trimestriel qui s'appelle Carrefour. Donc c'est le journal du CCSI, je crois qu'on va dire centre de contact, ça sera plus simple et moins barbare que ce sigle. Ces centres de contact, c'est à base d'initiatives personnelles, c'était des suggestions de l'État pour qu'il y ait des circuits pour répondre aux problèmes des migrants.
Alors, je dirais que historiquement, c'était l'initiative de personnes ou d'associations proches des milieux migrants. N'oublions pas qu'en 1974, au moment de la création du centre, nous vivions une période d'initiative xénophobe quasiment annuelle et qu'aucun immigré et aucune association n'osait à l'époque tenir une séance publique. Et le centre de contact, à l'initiative d'un certain nombre de personnes, d'un groupe dont je faisais partie, a été dans un premier temps presque un peu comme un paravent pour donner la possibilité à ces associations de pouvoir se réunir, de pouvoir débattre entre elles, entre connationaux ou entre nationalités différentes, avec un certain nombre d'associations ou de personnes suisses qui étaient intéressées au problème. Et il s'agissait à ce moment-là vraiment de se battre presque contre l'hostilité. Il y avait aussi des aspects plus politiques comme le statut de saisonnier ou le regroupement familial. Mais je dirais que vraiment, si je me replace dans ce climat, c'était presque donner un lieu où des gens pouvaient se sentir un peu à l'aise, discuter de culture, de politique, de leur pays, sans la préoccupation de se faire interdire ou de toucher à une loi qui leur interdisait de prendre la parole.
En fait, l'époque des initiatives Schwarzenbach, c'est ça?
C'est ça, c'est exactement ça. Mais
je me souviens très bien.
Je dirais que ce qui est peut-être important de dire, c'est qu'il n'y en a pas une. Il y en a eu pendant plusieurs années, quasiment une par année.
Mais il faut quand même ajouter qu'il n'y en a aucune qui a passé.
Il n'y en a aucune qui a passé. Ah, il y en a eu deux qui ont frôlé la catastrophe à quelques pourcentages près.
Le peuple suisse les a quand même
mais
refusé.
Mais disons
tout
que...
De même.
Voilà. Puis depuis là, alors, le centre s'est plus transformé en un centre d'accueil et de réflexion. Où en fait se mélangent associations et individus, Suisses et immigrés, gens tout simplement intéressés par la problématique, par solidarité, et gens professionnels qui, comme enseignants, comme psychologues, comme éducateurs, comme assistants sociaux, côtoient quotidiennement dans leur travail et qui viennent au centre amener des informations et en tirer. C'est donc plus aujourd'hui, ça n'est plus un centre composé d'associations uniquement, mais c'est presque plus un centre composé de gens intéressés par la problématique et professionnels du social. Et je dirais, pour peut-être compléter cette brève information, nous avons en gros, synthétiquement, un peu trois niveaux de travail. Il y a un premier niveau qui est l'accueil, c'est-à-dire les gens peuvent venir tous les après-midi au centre de n'importe quelle nationalité pour n'importe quel petit problème. Ils sont accueillis d'une part gratuitement et dans leur langue nationale. Si leur demande peut être satisfaite dans un premier temps, tant mieux. Si elle doit être dispatchée ailleurs, dans un autre service, parce que nous n'avons pas la prétention de traiter tous les problèmes sociaux du monde entier. Autrement, nous avons, nous, alors un certain nombre de permanences sur rendez-vous, sur des problèmes plus spécifiques. Un est le problème qui nous ramène un peu au sujet d'il y a quelques semaines, c'était le problème de scolarisation des enfants. L'autre peut être le problème un peu du lien aux assurances, à tout la sécurité sociale, la Caisse nationale d'accident, l'assurance invalidité, l'AVS, le retour au pays avec les problèmes de pension. Un troisième élément est tout ce qui concerne le logement et le regroupement familial. Donc, au moment où la famille mûrit son droit à pouvoir faire venir le reste de la famille. Et la quatrième, c'est plutôt les problèmes juridiques. Un permis, la transformation du permis... quand un permis est échu, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on rentre au pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, c'est plus des rendez-vous qui demandent des démarches. Alors là, il y a des gens qui se sont un peu spécialisés dans ces domaines et qui accueillent les gens sur rendez-vous.
Très bien. Alors pour les questions, disons pour les dossiers sérieux, on prend rendez-vous. Mais autrement, l'accueil, eh bien, c'est tous les après-midi, lundi, mardi, mercredi, voilà. Vendredi. C'est fermé le jeudi et le samedi.
Voilà. C'est ouvert jeudi matin, c'est fermé. Oui. Donc jeudi après-midi, mais c'est ouvert jeudi matin.
Très bien. Ce sont des bénévoles là qui servent de réceptionnistes, de répondants.
Alors il y a, disons, le centre, il est composé de plusieurs personnes à différents titres. Il y a effectivement trois personnes qui sont engagées, je dirais, par l'association. C'est aussi un changement entre l'époque de 74 maintenant, où on était tous des militants, des gens qui donnaient leur soirée par idéal. Aujourd'hui, le centre a quand même une assise, je dirais, entre guillemets, un peu professionnelle. Donc il y a trois personnes, plus Juliana, qui fait donc partie de cet aspect plutôt centre famille, école migrante, mais qui, au fond, fait partie de la même équipe.
Que vous avez baptisé, donc, CFM.
CFM, voilà. Et puis, à côté de ces quatre personnes, il y a un certain nombre de bénévoles, comme par exemple moi, qui font un certain nombre de permanences le soir, et des personnes qui viennent les après-midi pour ce moment de premier accueil qui ne nécessite pas forcément, je dirais, une compétence, hein, qui nécessite beaucoup de chaleur humaine et puis beaucoup de compréhension, parce que les situations qui nous parviennent sont des fois compliquées, mais ça, c'est plus ou moins des personnes, des anciens migrants. Et on tient beaucoup à cet aspect où il y a des professionnels et des bénévoles, parce que l'accueil n'est pas une histoire de compétences uniquement. C'est aussi une histoire de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre. Et souvent, c'est des anciens gens qui sont venus à nos permanences, qui maintenant donnent des coups de main et qui sont, eux, vraiment en mesure d'accueillir les gens, parce qu'ils savent, au fond, le parcours que les gens ont fait. Ils l'ont vécu eux-mêmes.
Alors, vous avez aussi un journal, Carrefour, qui est trimestriel. Et on peut s'abonner, ne coûte pas cher, c'est 10 francs par année. J'en ai feuilleté plusieurs numéros. Il y a des articles de fond sur toutes les grandes questions liées à la migration. Et quelquefois, vous faites un dossier spécial sur un pays. Là, il y a le Kosovo, un autre numéro sur le Portugal. Mais je trouve formidable. C'est seulement en français, le journal.
Oui, c'est seulement en français. Je voudrais juste ajouter à ce que je disais avant, c'est que, au fond, ces moments d'accueil et ce moment de permanence, c'est en fonction de ce travail-là que nous réfléchissons. C'est en fait la pratique précède la théorie, à quelque part. Si nous faisons un dossier, ce n'est pas un dossier d'intellectuel qu'on lit des bouquins, mais c'est un dossier, au fond, où les éléments que les gens nous amènent, nous faisons un peu une réécriture de ce que les gens nous amènent. Et nous faisons un dossier où nous faisons une proposition aux autorités pour changer une situation. Et pour cela, nous avons, pour le Carrefour, une commission de rédaction. Mais pour tous ces sujets précis, nous avons des groupes de travail qui, au fond, je dirais presque un peu synthétiquement, puisent leurs analyses dans les problèmes que les gens amènent. Donc, nous voulons, dans ce sens, ne pas être simplement un service d'accueil, mais aussi un service propositif, au fond, pour proposer des changements qui font que les gens peut-être ne viendront plus pour le même problème 2 mois après ou 1 année après. Donc au fond, nous sommes vraiment des gens de terrain. C'est ça, je tiens à signaler cet aspect du centre de contact.
Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est le centre de contact, ce n'est pas quelque chose d'officiel, c'est quelque chose à part, hein, c'est une association.
Oui, c'est une association privée. À but non lucratif privée, mais qui est quand même subventionnée fortement par les pouvoirs publics,
voilà,
l'État et la ville de Genève.
Alors, je crois qu'on a bien compris la situation des centres de contact. Est-ce qu'ils sont tous organisés sur le modèle que vous venez de décrire? Dans les autres cantons, vous avez des contacts? Vous savez comment ça fonctionne?
Disons que par son histoire et par le contexte genevois, le centre de contact est né, comme je disais, plutôt dans un côté mouvement et s'est transformé petit à petit dans un côté professionnel mouvement. Par ailleurs, dans d'autres cantons, il y a des centres de contact qui sont, par exemple, le centre de contact vaudois de Lausanne. Il a une structure plus petite, donc il n'a pas d'accueil, il a plutôt une structure de réflexion uniquement. Il y a le centre de contact Valais et Fribourg qui, par ailleurs, ont, eux, 2 petites permanences. En Suisse allemande, c'est plus des centres de contact, je dirais, entre guillemets, institutionnalisés, qui sont souvent plus liés au pouvoir public. Je ne dis pas ceci avec un jugement quelconque, hein, sur le plan moral, qui sont plus directement financés par les pouvoirs publics et qui, par ailleurs, font un autre travail qui est plus institutionnel. Ils ont, par exemple, plus de moyens que nous. Ils publient un journal en plusieurs langues, mais ils ont peut-être moins ce côté accueil des gens et proposition. Ils ont un côté plutôt informatif. Par exemple, s'il faut publier un journal où on traduit des nouvelles lois ou de nouvelles ordonnances, ils ont un peu ce rôle de courroie de transmission de l'information. Alors que nous, on se sent plus concernés par le social de l'immigré.
Vous n'avez pas parlé de Neuchâtel et du Jura, si on peut les nommer aussi?
Alors, il n'y a pas de centre de contact formellement à Neuchâtel et au Jura. Il y a des groupes qui sont liés, soit par exemple à la Colonia Libre Italienne, qui est une association de vieux immigrés italiens, parce que c'est plus ce type d'immigration qu'il y a là-bas. Mais au fond, peu importe l'étiquette, il y a un certain nombre de mouvements avec lesquels on collabore régulièrement.
Vous avez aussi des contacts avec la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers?
Alors, le centre de contact se veut aussi, quelque part, un interlocuteur de ces organismes plutôt officiels. Autant on fait un travail de terrain, mais on peut utiliser notre connaissance du terrain. On est souvent sollicité, par exemple, pour animer, une journée à la Commission fédérale sur le problème du regroupement familial.
Voilà.
C'était un de nos permanents qui animait ça. Donc, nous essayons d'avoir...
C'est un bon relais.
D'avoir aussi un travail assez, je dirais, un peu comme une pieuvre. Nous privilégions pas forcément une manière de faire par rapport à l'autre. Pouvoir aller discuter une fois avec La commission qui est au ciel, le relais du Conseil fédéral, peut être tant utile que faire un dossier pour Carrefour ou accueillir une famille. Je pense que tous ces rôles se complètent l'un l'autre.
You wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kind of lonely. Louis offered me his song. He said, you
Florio Tony, vous avez très bien décrit ce qu'était ce CCSI. Et je crois que c'est nécessaire parce qu'on ne comprend pas toujours à quel service s'adressent les étrangers. Ben, il y en a plusieurs et à différents niveaux. Mais vous êtes l'un des relais principaux, je crois, aujourd'hui, qui a directement affaire
à la population migrante. Je dirais qu'à Genève et peut-être dans d'autres cantons aussi, nous sommes un peu une référence. De nouveau, nous ne prétendons pas être les seuls qui traitent ces problèmes. Mais nous sommes un peu une référence quand il s'agit de peut-être de comprendre mieux la situation de la migration pour pouvoir accueillir une famille.
Eux ont confiance en vous et les pouvoirs publics aussi. Donc
voilà,
vous êtes
que nous avons réussi, ça c'est un beau résultat du centre de contact, d'avoir la confiance autant du terrain des familles, autant des services sociaux, autant de l'institution école que des autorités. Ça ne va pas sans problème parce que nous tenons à garder quand même notre rôle critique. Notre rôle un peu en guillemets mouvement, mais je crois que d'avoir un peu les deux aspects, un côté collaboration et un côté critique, nous a fait un peu notre place et nous a fait reconnaître un peu par tout le monde.
C'est pas facile de s'entendre, surtout lorsque l'on sait qu'il y a plus de 50 associations de 10 nationalités différentes qui sont membres du CCSI. Donc, quand il faut mettre tout le monde d'accord, ça prend du temps.
Et puis, je dirais que c'est une de nos tâches aussi, un des enjeux, et je dirais un des enjeux qui deviennent actuels dans le futur, c'est que par moment, l'entente entre les gens n'est pas facile, que l'interculturalisme se vit aussi au quotidien. Et peut-être sur le même sujet, les Italiens n'ont pas la même perception que les Espagnols ou les Turcs, et inversement. Nous ne prenons rarement position pour l'un ou l'autre. Je crois qu'il faut qu'on interprète le centre comme un lieu d'échange finalement, on arrive quand même toujours à trouver, je dirais, la dimension migrant entre les différentes cultures. C'est un peu notre rôle de trouver en quoi être migrant réunit un peu ces gens. Les problèmes sont souvent un peu les mêmes.
Mmh. Découvrir les points communs et
voilà,
les problèmes
c'est
communs.
C'est aussi trouver ce qui nous unit. Hein, pour vos,
J'étais assez surprise et presque amusée, pour autant que ça prenne pas un tour dramatique, lorsque j'ai commencé dans le domaine de la migration, d'apprendre qu'il y avait quand même des communautés qui sont là depuis plus longtemps, qui sont plus installées. Alors elles s'imaginent d'avoir des droits quand même par rapport aux nouveaux, aux derniers arrivés. Enfin, il y a des relations assez amusantes entre les différentes communautés qui vivent en Suisse. Oui, il y a celles qui sont plus nombreuses que d'autres.
Moi, je dirais que tant que ça reste amusant, c'est,
oui, c'est ce
intéressant.
Que je dis, hein.
Il y a par moments, disons, une,
des
frictions importantes. Je dirais que par moments, bon, c'est un petit peu inhérent à l'être humain. Je veux dire, quand on a passé par une situation d'extrême difficulté et puis qu'on en sort, on tend des fois un petit peu à se soulager en trouvant un autre qui est dans une situation inférieure à la nôtre.
Parce qu'il y a des communautés qui ont obtenu certains droits. Alors, j'ai vu ça en congrès où plusieurs étaient réunis, d'autres ne les ont pas encore. Alors, les gens disaient, mais si tout le monde veut les mêmes droits, alors peut-être qu'on va nous les enlever. Enfin, il y avait ce genre de crainte. Mmh. Et au fond, c'est l'éternel problème humain qui
ressurgit au niveau personnel, voilà. Au niveau petit groupe et au niveau communauté.
Alors qu'ils étaient tous dans le même bateau, si je peux dire. Mais dans un bateau, il y a plusieurs niveaux.
Bon, il faut dire qu'un migrant, si, pour parler peut-être plus clairement, je veux dire, un Italien, il est là, il a fait un peu tout son trajet. C'est vrai qu'il a quelque part le sentiment d'avoir payé les quelques petits droits qu'il a aujourd'hui et des fois ne pas comprendre pourquoi quelqu'un qui arrive comme requérant d'asile a tout de suite droit à un certain nombre de choses. Je crois que notre rôle de centre de contact, ce n'est pas de juger cette attitude. C'est d'essayer de discuter cette attitude pour, au fond, faire comprendre que finalement, si lui, il a des droits, ça sera utile aussi pour le suivant. Et que si le suivant a aussi des droits, ça sera utile pour le suivant qui viendra.
Un peu de générosité.
Que finalement, on est toujours un peu l'étranger de quelqu'un et le dernier de quelqu'un. Et que finalement, ce n'est pas en laissant de côté une partie de la migration qu'on résoudra forcément le problème de la première migration. Ce n'est pas parce qu'on exclut de certains droits, les nouvelles migrations, que les anciennes migrations auront plus de droits. Je dirais qu'il y a un mouvement d'élastique entre les deux. On peut admettre sur le plan personnel que quelqu'un qui est là depuis 25 ans soit peut-être embêté, un peu irrité par la facilité de certains qui viennent d'arriver. C'est aussi notre rôle de discuter que dans le domaine de la migration, si on va en delà des apparences, rien, absolument rien est facile. Et que donc, on peut aussi entretenir avec nos amis italiens, nos amis espagnols, au fond de faire comprendre pourquoi c'est important que les requérants d'asile aillent leurs droits, parce que finalement, ça sera utile aussi à eux, quoi. Et puis le climat qu'on crée quand on parle en termes d'exclusion des requérants d'asile, mais quand on aura résolu le problème des requérants d'asile, ça sera aussi aux anciens immigrés de le subir. Donc, c'est un peu notre rôle aussi de réfléchir dans ces termes-là.
Dites-moi, Florio, vous allez devenir, avec toute votre pratique, docteur ex-migrant, ça existe
J'espère que ça n'existera jamais. Je ne souhaiterais jamais devenir ça. Comme je disais, autant pour
monsieur
moi...
Monsieur Migration, hein, non, voilà non, ce que je, la Suisse devait créer. Monsieur Migration, comme monsieur Prix.
Ouais, mais en tout cas, ça ne sera pas moi. Je vous le garantis. Je tiens absolument à continuer à travailler dans mon école parce que c'est là que...
Que vous reposez.
Que je non, je ne me repose pas, mais que j'apprends beaucoup de choses. Et puis, tout simplement, je crois que si on est embarqué dans cette superbe aventure, par moments avec des côtés galères du centre de contact, c'est pas un simple devoir de citoyen.
Tout à fait, devoir d'être humain.
Voilà.
Alors, je voudrais en terminer avec vous, avant de passer la parole à Juliana, en terminer sur une question qui va en faire sauter plus d'un, mais peu importe, on est là pour ça. Droit de vote. Alors, on va faire quand même un bref état de la situation en Suisse. Qu'en est-il de ce fameux droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers qui sont là, précisons-le, depuis au moins 10 ans? Encore que j'ai vu que dans un canton, c'était après 8 ans. Courageux, hein? Alors, il y a certains cantons qui ont déjà accordé le droit de vote communal. Je vois Neuchâtel, 1849.
Alors, en fait, la situation, sur le plan de la pratique du droit de vote, il n'y a quand même que 2 cantons.
Oui.
Donc, Neuchâtel, qui a le droit de vote communal depuis beaucoup d'années, et Jura, qui a le droit de vote...
Cantonal et communal.
Droit de vote, de voter, pas d'être élu, communal et cantonal.
Voilà. Pour les étrangers établis depuis 10 ans.
Voilà, pour les étrangers qui ont cette longue permanence.
Mais dans beaucoup de cantons, il en est fortement question et les études sont déjà avancées.
Alors, dans beaucoup de cantons, il y a eu soit des projets de changement constitutionnel donc directement faits par les autorités, soit des initiatives qui ont été lancées par des comités de citoyens ou des comités d'organisation pour l'octroi du droit de vote communal et cantonal, avec un peu toutes les variantes. Certaines initiatives sont plus sur le droit de vote uniquement, d'autres comme la nôtre, avec d'autres qui s'appellent tous citoyens, toutes citoyennes, qui portent et sur le droit de vote et sur le droit d'être élu dans les instances communales.
Mais là encore, je n'avais pas forcément en tête de peloton. Balleville a déjà pris le train, Chafouz, Le Tessin, Zurich, Fribourg étudie aussi ces possibilités. Et Genève, là au milieu, c'en est où la situation ?
À Genève, la situation en année là, il y a eu en fait deux initiatives qui ont abouti en décembre 91. L'une qui s'appelle « Tout citoyen, tous citoyens », qui porte sur les droits de vote communal et cantonal et sur le droit d'être élu au niveau communal et cantonal, et une qui s'appelle « Vivre ensemble, voter ensemble », qui, elle, ne porte que sur le droit de vote communal et cantonal,
prudent,
mais
hein.
Ne parle pas de éligibilité.
Voilà, c'est ça.
Alors là, on ne sait pas très bien, c'est des longs débats qu'il va y avoir ces prochains mois, mais sur lesquels on a relativement peu d'impact. C'est de savoir si ces deux initiatives seront mises en votation ensemble ou l'une après l'autre. Nous espérons que l'initiative « Tous citoyens, toutes citoyennes » qui est plus large soit votée avant, parce que je crois qu'on tient à la globalité des droits, mais nous participerons, en tout cas en tant que centre de contact, aussi à une campagne pour l'autre initiative. À nos sens, elle n'est pas du tout exclusive l'une de l'autre.
Vous avez l'impression que les milieux politiques suisses sont favorables à ces décisions aujourd'hui?
Je ne sais pas s'ils sont favorables totalement. Je crois qu'il y a quand même une sensibilité qui s'installe petit à petit. Je dirais qu'on prend quand même petit à petit en compte de l'hétérogénéité de la population suisse et que nous ne pourrons pas, aussi face à des mouvements migratoires importants de ces prochaines années, continuellement se contenir au fait que, par exemple, qu'une partie de la population pourra voter. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu le défi de ces initiatives. Au fond, quand on dit droit de vote, il y a un côté très passionnel. Les autres vont décider pour nous. Mais quand on descend dans des exemples très concrets, au fond, droit de voter veut dire décider des problèmes qui nous concernent tous les jours. Et nous pensons qu'on ne peut plus, mais je dirais, en delà d'un problème d'identité nationale, on ne peut plus résoudre les problèmes qui nous sont posés aujourd'hui sans le concours de tout le monde.
Surtout quand la proportion devient importante.
Voilà, mais moi, je sais pas, j'étais dans la rue pour récolter des signatures, je discutais avec les gens. Je disais, voilà, on parle toujours défense nationale, qui c'est qui va nous défendre. Mais quand on descend à un problème comme vous et moi, monsieur, on est devant ce carrefour, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voitures. Votre fils va à l'école à cette école-là, mon fils, il va à l'école à cette école-là. Quelle différence il y a entre moi, Suisse, et vous, étrangers, pour savoir s'il faudra limiter le bruit d'un carrefour, s'il faudra construire une école de plus ou une classe de plus, s'il faudra limiter la circulation, s'il faudra augmenter le prix du pain. Est-ce que c'est moi et vous, en tant que père d'élèves, qu'on doit décider de ça, ou c'est moi, Suisse, et pas vous, étrangers, que vous devez décider? Et en fait, les gens, à ce moment-là, ils se disent, mais c'est évident qu'on doit se mettre ensemble.
Ouais.
Ça ne veut pas dire avoir la même opinion. On pourra tout à fait imaginer que les opinions, mais chacun aura le droit de dire son opinion. Et on pense que, là je prends le cas un peu de Genève, comment pouvez-vous imaginer de résoudre le problème de l'environnement, de la pollution, si on prend le cas des automobilistes, si en fait vous faites voter qu'un tiers de la population?
Alors, pour cette question, rien n'est encore décidé, mais tout est en route. Et je crois que si vous n'avez rien à ajouter, Florio Toni, on va garder le restant de l'émission pour Julienne Abriel, qui nous a écoutés très attentivement, mais je crois que c'était très important de présenter une chose après l'autre, sinon il y a risque de confusion. Alors, Julienne Abriel, nous avions entendu pour nous relater toute l'aventure de la petite école, de la Grèce, ce sigle donc pour l'encadrement des enfants qui n'avaient pas de statut. Aujourd'hui, ces enfants sont admis publiquement et officiellement à l'école, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait encore du travail à faire et pour cela vous avez créé le Centre École Famille Immigrante. C'est quelque chose de typiquement genevois.
C'est typiquement genevois puisque c'est la suite de ce qu'on pouvait appeler la petite école.
Voilà.
Mon travail à l'époque de la petite école consistait presque uniquement de trouver une solution à la scolarité de ces enfants, alors qu'aujourd'hui, dans le Centre École Famille Migrante, ça va être un travail beaucoup plus élargi, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus, je dirais même, de contenu. C'est-à-dire que si les enfants de 4 à 15 ans sont à l'école aujourd'hui, c'est clair, il n'y a plus d'opposition, mais les connaissances des parents qui rentrent dans un nouveau système, tout le système aussi genevois qui est très différent des autres pays, en fait, ce que j'appellerais tout simplement un peu l'intégration, ça ne va pas de soi. Mmh. Ce que je souhaiterais pouvoir faire aujourd'hui et ce qui est déjà des projets, c'est réunir les parents par des quartiers, c'est pouvoir mettre les parents dans les associations de parents d'élèves. Ce sont donc comme ça plusieurs projets qui sont plus collectifs qu'individuels.
C'est aider les parents migrants à participer à l'intégration de leurs enfants
et de la famille. Ouais. Parler avec eux et expliquer que le système genevois est certainement très très différent de ceux qui viennent de quitter. Et d'abord, même si les parents étaient scolarisés, il y a une très grande différence. Il y a des passages de l'école primaire au cycle qui est tout à fait, donc au cycle de Genève en tout cas, qui est tout à fait différent de ceux qui seraient dans leur pays. Et c'est aussi, donc, au moment où je trouve les familles entre 12 et 15 ans, c'est aussi la préparation vers la formation professionnelle, vers un apprentissage ou vers la suite des études. Et que là, alors, malheureusement, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Parce qu'ils n'ont pas de droit, ces enfants-là. Une fois qu'ils ont fini l'école obligatoire...
C'est-à-dire qu'on se trouve un peu, je dirais, presque dans l'absurdité que même dans le cadre d'une même famille, on pourrait avoir des enfants qui, eux, ont le droit à l'école obligatoire, et puis le frère ou la sœur aînée n'a aucun... au cycle qui est tout à fait, donc au cycle de Genève en tout cas, qui est tout à fait différent de ceux qui seraient dans leur pays. Et c'est aussi, donc au moment où je trouve les familles entre 12 et 15 ans, c'est aussi la préparation vers la formation professionnelle, vers un apprentissage ou vers la suite des études, et que là, alors, malheureusement, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Parce qu'ils n'ont pas de droit, ces enfants-là. Une fois qu'ils ont fini l'école obligatoire...
C'est-à-dire qu'on se trouve un peu, je dirais, presque dans l'absurdité que même dans le cadre d'une même famille, on pourrait avoir des enfants qui, eux, ont le droit à l'école obligatoire et puis le frère ou la sœur aînée n'a aucun droit.
Parce qu'il est né 2 ans plus tôt à l'étranger.
Exactement, et puis parce que s'il n'a pas d'autorisation de séjour, il ne peut pas rentrer en apprentissage. Il ne pourrait qu'éventuellement continuer des études, mais donc il faut qu'il soit doué pour faire des études, mais tous ceux qui seraient apprentissage l'auraient actuellement fermé. L'apprentissage, malheureusement, dans le cadre de la loi sur les étrangers, est assimilé à une activité lucrative. Toute activité lucrative doit avoir une autorisation de séjour. Et donc, c'est terminé. Après 15 ans, ce jeune ou cette jeune n'a plus de choix. Alors qu'on pourrait même supposer qu'elle a déjà fait 3, 4, 5 ans de scolarité.
Donc, on l'a bien compris, ça c'est l'étape suivante. Vous poursuivez un peu le travail accompli en scolarisant les enfants clandestins. Maintenant, c'est l'étape suivante. Il faut continuer en leur offrant la suite.
Oui, que la suite, elle est évidemment pas du tout aussi simple qu'était le droit à l'éducation. Dans l'équipe où on travaille, dans le groupe de réflexion où on travaille, tout au début, c'était une suite logique, droit à l'éducation, droit à l'école et droit à la formation. Mais en fait, plus on est en train de réfléchir, plus on s'aperçoit que c'est loin d'être la même chose. Un peu en gros, de dire mettre les enfants à l'école obligatoire, en fait, c'était les mettre dans des classes déjà existantes, peut-être en augmentant quelques classes. Et encore, la structure était là, alors que mettre un apprentissage, ça veut dire tout de même trouver des employeurs, ça veut dire toujours aussi passer les tests pour pouvoir faire l'apprentissage. Et là, j'ai fait juste un flash de dire que très, très souvent, ces jeunes ne sont pas au niveau scolaire, qui est aussi... Ils accumulent deux handicaps très, très souvent. Ils accumulent l'handicap du non-autorisation de séjour, mais en fait, il y a aussi le grand handicap de non-niveau scolaire pour pouvoir rentrer en apprentissage.
Mais vous entrevoyez des solutions, là?
En tout cas, la réflexion, elle se fait. On pourrait penser, par exemple, à des formations semi-ateliers pour apprendre le métier semi-scolaire. on pourrait voir peut-être des écoles plus professionnelles. En tout cas, sur le plan de Genève, pas seulement nous, le Centre École Famille Migrante, nous faisons cette réflexion, mais l'ensemble des professionnels font cette réflexion.
C'est important de dire ce que côté, contrairement à l'école, bon là, c'est, il y a aussi toute une vie devant. Quand on entre à l'école à 7 ans, il y a une chance à saisir. Tandis que là, les problèmes de formation, déjà, bon, ça dépend de l'économie, puis l'économie, elle est pas aussi sympa que le DIP. Hein. Je veux dire, l'économie, elle veut, quelque part, vous allez voir, une association professionnelle, elle a ses exigences. À la rigueur, on se rend compte, plus on réfléchit, c'est vrai qu'un centre comme le nôtre, et il se fait, mais ensemble, on doit se battre un peu pour le principe. Mm-hmm. Je veux dire, on a ce rôle aussi de bousculer les frontières et puis de dire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un droit aussi pour ça. Mais on se rend compte qu'en amont de ça, il y a de tels handicaps que par ailleurs sont souvent les mêmes que les jeunes Suisses qui ont eu des problèmes scolaires, qui a un peu tout le problème de la formation qui est en jeu aussi, mais qui est un petit peu un plus pour eux, parce que finalement, pas seulement ils n'ont pas le statut et que par moment, ils ont peut-être bien bossé à l'école, puis ils arrivent à 16 ans, ben, messieurs, dames, il n'y a plus rien pour vous, mais que souvent, ils ont été aussi séparés de leurs parents, ils ont fait des scolarités lacunaires au Portugal ou en Turquie, etc. Bon, quand même pas oublier que le Portugal a une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans depuis 3-4 ans, et depuis seulement 10 ans jusqu'à la 4e. Donc en fait, il y a une espèce d'accumulation pour eux.
Alors, c'est plus ça, la ce que je voudrais ajouter, c'est que le jeune qui arrive, même qu'il a 13-14 ans, qu'il fait encore une ou deux années d'école obligatoire, il vient dans un milieu scolaire qu'il a déjà parfois quitté depuis une ou deux années. Alors celui qui vient à 15-16 ans, l'école il l'a quitté depuis 3-4 ans. Et les structures qu'on a actuellement, qui sont le CASPO, classe d'accueil secondaire post-obligatoire, en voyant les jeunes que moi je reçois dans mon bureau, cette structure est trop scolaire pour eux. Il faudrait vraiment inventer une autre structure. Les jeunes, l'école n'a plus de sens pour eux. Ils l'ont quitté, ils avaient 12 ans, 11 ans, voire 10 ans.
Ils aspirent à quoi, ces jeunes-là?
En fait,
comment est-ce qu'ils voient leur avenir?
Alors, ils le voient, ils aspirent, et y compris les parents, à part après des cas individuels, ils parlent d'apprendre un métier. Mais ils n'ont pas un concept très très clair de ce qui est un apprentissage ici. Et puis ils aspirent aussi, en tout cas des 16-17 ans, à travailler. La reconnaissance de ces jeunes dans leur pays d'origine, 16-17-18 ans, ce sont des hommes et des femmes. Donc parler d'école, ce n'est pas compréhensible pour eux.
Ce sont déjà des adultes.
Ce sont déjà des adultes et ont déjà vécu depuis plusieurs années en adulte. Il faut vraiment qu'on fasse une excellente formation de dire, d'accord, tu vas aller 3 ans dans un apprentissage. Tu vas gagner peut-être très peu par rapport à ce que tu pourrais gagner au noir ou bien en étant manœuvre pendant ces 3-4 années. Mais pense bien qu'au bout de 3 ans, tu vas avoir un certificat de capacité, un diplôme. Le diplôme passe bien, ils comprennent bien le mot diplôme. Toute ta vie va être changée puisqu'à partir de là, tu gagneras. C'est vrai que très très souvent, je fais le discours d'argent financier, parce que c'est un discours qui passe bien dans l'immigration. N'oublions pas, l'immigration, elle est venue en Suisse pour gagner de l'argent, elle n'est pas venue en touriste. Et donc, le fait de gagner mieux sa vie est un...
Peut les inciter à aller à l'école.
Peut les inciter d'aller à l'école, mais d'apprendre un métier. Mais c'est encore, plus encore que chez les jeunes, il manque encore une énorme information au niveau des parents. Ce jeune qui arrive actuellement, et si je le compare à mes fils, que des fois ils ont un peu le même âge, ils ont encore l'habitude, je dirais c'est là avec des grands guillemets, d'obéir à leurs parents. Ils sont plus obéissants, en tout cas ils tiennent plus compte de ce que le parent dit, mais le parent lui-même ne connaît pas encore bien le système. Donc il faudrait peut-être d'abord informer bien les parents pour qu'ils passent ce message aux jeunes. Ils voient leur avenir, c'est quand même un peu en gagnant de l'argent. Et malheureusement, je dirais presque tout et tout de suite. 3 années, c'est souvent trop long pour eux.
L'idéal serait de créer une sorte de classe SAS, où on peut voir où est le jeune, où il en est dans son niveau scolaire, et puis l'amener au niveau où il peut commencer un apprentissage.
Non, c'est classe de rattrapage. Moi, j'ai comme ça. Ça me vient juste un exemple d'un jeune d'il y a 2 ans, que donc lui n'avait pas de problème de permis, puisque au moment où il était arrivé, on a fait le regroupement familial, il allait obtenir le permis B dans les quelques mois qui ont suivi. Et je l'avais placé en accord avec lui, mais ses parents, donc toujours dans ces structures de classe d'accueil secondaire, pour apprendre bien le français, le mise à niveau de maths et envisager par la suite effectivement une entrée en apprentissage. Ce jeune, au bout de 3 mois, il est parti, il est venu, il m'a dit, mais écoute, c'est une école, moi, je ne veux plus aller à l'école. Et on m'a donné un emploi dans une boîte pour monter des pneus et c'est là que je suis content. Écoute, bon, tu fais ton choix, moi je pense, si tu veux mon avis, qui n'est peut-être pas un très bon choix, mais vas-y, je ne peux pas te retenir. Et au bout de 6 à 7 mois qu'il travaillait comme manœuvre et qu'il gagnait 2100 francs, et pour lui, il trouvait que c'était une fortune, il est venu, il m'a dit textuellement, j'étais con, j'ai compris ce que ça veut dire travailler comme manœuvre. Est-ce que je peux reprendre le système? Donc, de bien réapprendre le français, de retourner au CASPO, donc à classe d'accueil secondaire, et après rentrer en apprentissage. Et je dis, mais oui, sans problème. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, je parle de 2 à 3 ans, il doit, s'il n'est pas dans la 3e année d'apprentissage, il est en tout cas dans la 2e, il est rentré en 3e année, il est ravi, il va sortir avec un certificat. Et pour ce jeune, il a fallu justement rentrer d'abord pour voir, dire non, je ne veux pas cela. Je vais aller travailler et se rendre compte que non, travailler, c'était pas ça, et reprendre la filière. Mais ce sont encore malheureusement que quelques cas comme ça. On commence à mettre sur pied des classes ateliers au niveau du poste obligatoire. Il y a des projets que la direction donc, du secondaire met sur pied, que d'autres institutions tout à fait d'État mettent sur pied, mais on est tout à fait encore au niveau de réflexion.
Dans l'histoire d'aller travailler, bon, il y a un peu ce facteur un peu symbolique. Quand on émigre pour accumuler, parce qu'on n'a pas un travail ailleurs. Et donc, c'est important cette idée. On travaille, on participe aussi au projet de la famille. Et par moment, il y a d'une part ce problème-là. Je dois aider aussi mes parents. Je dois faire un peu la même chose qu'eux. Je dois contribuer un peu au bien-être de la famille, qui n'est pas un bien-être immense. Et la formation, qui est quand même quelque chose un peu plus à long terme. Il y a aussi l'aspect que souvent des jeunes sont obligés de participer au pactole économique de la famille parce qu'il y a des processus qui sont en même temps paradoxaux, c'est-à-dire si un jeune contribue à gagner de l'argent pour la famille, je le dis en termes comme ça un peu brutaux, c'est que ça permet à la famille par exemple d'acquérir la possibilité d'avoir un appartement plus grand. Cet appartement plus grand, ça leur permet de poser la demande pour le regroupement familial. Et ça permet donc de légaliser l'enfant, voire un frère ou une sœur qui est resté au pays d'origine. Donc c'est un mécanisme, je veux dire, il faut être drôlement fort pour un jeune pour, à quelque part, dire non, je ne vais pas travailler au noir, je ne vais pas travailler au CFF comme manœuvre ou à la Migros comme magasinier sous-qualifié.
J'investis
la formation quand on sait que cet investissement peut-être empêchera la famille d'avoir la somme d'argent nécessaire pour avoir un logement, pour déposer une demande et pour faire venir son petit frère qui est encore au Portugal ou au Kosovo. Donc, je ne juge ni l'un ni l'autre, mais je voulais juste montrer le mécanisme. Il faut être drôlement fort. Et quand on sait, comme disait très bien Journala tout à l'heure, qu'au fond, le problème de la formation n'est pas encore bien installé chez les parents, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Par moments, ils pensent que tout simplement aller à travailler, celui qui travaille avec vous, vous forme. Alors que ce n'est pas le cas dans le système de formation. Donc, ils n'ont pas non plus cet appui. Ils n'ont pas un père qui lui dit « Non, non, tu t'en fais pas, moi je vais travailler et toi tu t'occupes de te former. » Parce que lui, il ne sait pas non plus comment joindre les deux bouts.
Non, donc, ils sont adultes avant l'âge, on leur demande d'être adultes avant l'âge.
Mais tout à fait, et du côté financier, parce que bon, les discriminations par rapport à l'étranger, ils sont énormes, et il y en a beaucoup. C'est aussi que selon donc, le temps de séjour des parents en Suisse, qui est souvent encore court, ils n'ont pas droit aux allocations de formation. Je ne dis pas que tous n'en aient pas droit, mais par exemple, pour une bonne partie, ils seraient prêts, la famille serait prête d'envoyer le jeune peut-être en apprentissage, Pour autant qu'il y ait après un appoint, parce que ce que Florio vient de dire pour regroupement familial, le logement cher et tout ça, est absolument réel, est absolument réel. Mais bon, ils n'ont pas ce droit aux allocations et donc c'est le travail. C'est bien donc des allocations de formation qu'il faut avoir un certain nombre de séjours à Genève, d'années de séjour à Genève pour avoir droit.
Donc une allocation pour l'apprentissage.
Pour l'apprentissage.
Mmh. Ben, c'est en discutant comme ça qu'on se rend compte de la complexité des situations et la complexité d'ajuster toutes ces situations personnelles au statut d'un pays, à la vie d'un pays. C'est pas simple du tout. Oui. Moi, je vous remercie d'être venu en parler. On pourra vous réaccueillir à une autre occasion pour parler d'un problème spécifique. Je crois qu'il vaut mieux focaliser, si j'ose dire, sur une donnée, parce que chaque problème mérite des explications suffisamment larges pour être bien compris, donc on ne peut pas en traiter trop à la fois. Et je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites, parce qu'heureusement qu'il existe des gens comme vous. Ça facilite quand même un peu la vie des migrants quand ils arrivent dans un pays dont on ne parle même pas bien la langue. Et il y a tant de choses à résoudre, ça doit leur paraître un monde. Avant de terminer l'émission, Florio Toni, j'aimerais quand même qu'on dise que tout soudainement, ce CCSI va devenir roman.
Alors, pas forcément le CCSI en tant que tel, mais nous allons, par l'intermédiaire de notre journal Carrefour, faire devenir Carrefour le journal des centres de contact de Suisse romande.
Ah voilà, ça va être un lien entre les différents.
Ça va être un lien, donc il y aura un aspect, information qui, il nous semble, peut aider aussi les autres centres de contact. Et évidemment, à côté de ce projet, entre guillemets, éditorial, le fait qu'on fait un journal des centres de contact va nous donner l'occasion d'être un moment aussi où on collabore, où on échange nos expériences, où on parle un peu de ce qu'on fait chacun dans nos cantons, où on pourra s'entraider. Donc, en fait, il y aura actuellement au printemps et probablement pendant l'été un effort de nos centres de contact, ne pas de fusionner, mais d'avoir plus d'activités communes à travers le journal ou à travers des activités plus romandes, dans le but aussi peut-être de jeter un pont avec nos collègues de Suisse allemande qui rempliraient un vide qui était laissé un peu par le fait que la communauté de travail Aide solidaire, qui a joué un rôle très important dans les années 80 jusqu'à peu près la fin des années 80, n'est actuellement plus en fonction, et que le mouvement pour une Suisse ouverte et démocratique a replié un peu le flambeau, mais plus sur la question de l'asile politique que sur la question de l'immigration. Donc, c'est un premier pas de regroupement avec le but aussi d'amener une contribution à nos collègues et à nos amis suisses-alémaniques pour créer aussi une dynamique plus nationale.
Ce soir, on a eu pratiquement deux invités qui ont le même accent, mais qui n'appartiennent pas au même pays. Et c'est là où on voit des fois l'ambiguïté, le ridicule et l'absurde de tout ça. Juliana, vous êtes italienne, et vous, Florio, vous êtes tessinois. Là, je crois qu'il faudrait bannir le terme d'étranger, au fond.
Oui, moi je dirais que, d'ailleurs, je trouve que vous me donnez l'occasion là, de peut-être de conclure en disant que, effectivement, ce mot étranger,
étrangère
me plaît de moins en moins, parce que face aux mutations de ces dernières décennies et des décennies suivantes, je pense qu'on sera tous citoyens ou tous habitants de petites citadelles planétaires où se mélangeront les races, les cultures, les couleurs de peau, les langues. En tout cas, pour ce qui me concerne, le fait d'être tessinois à Genève n'est pas forcément une motivation d'être étranger. Je trouve qu'on fait partie tous un peu de la même société. On peut tous garder nos identités. Moi, je peux garder mon R roulé tessinois comme d'autres peuvent garder leur accent suisse-allemand. Mais on a tous quand même un vécu, des projets communs qui va bien en-delà de nos manières de nous exprimer, de nos manières de parler, de notre couleur, de notre peau. Et ça va être un peu le défi gigantesque que nous avons tous devant. Comment coexister sans perdre chacun notre identité, mais comment vivre les problèmes communs que nous avons en face et les résoudre.
Avec simplifions tout le reste.
Ouais. Avec le concours de tout le monde, sachant qu'aujourd'hui, on ne pourra résoudre aucun problème majeur sans le concours de tout le monde, avec ses ressources, avec ses capacités.
Il faut dire que pour bien des gens, ce qu'on est en train de dire est une évidence. Hélas, pas encore pour tous. Et c'est bien là le problème. Sinon, il n'y aurait pas d'émission migration. Bonsoir et merci, et à une prochaine fois pour d'autres questions, parce qu'il en reste encore beaucoup à traiter. Je remercie mes invités de ce soir, Juliana Abriel et Florio Toni du CCSI, Centre de contact suisse immigré à Genève. Une paire qui a misé sur l'accueil, l'écoute et l'engagement. Merci à eux pour tout ce qu'ils font pour les communautés étrangères en Suisse. J'espère que cette heure de migration vous aura plu et que vous serez des nôtres dimanche prochain sur Radio Suisse Romande La Première à partir de 20h. Dimanche prochain et pour 3 semaines, à l'occasion du Nouvel An chinois, Migration vous emmènera à Pékin. Notre première guide, Isabelle, une jeune femme suisse étonnante. Notre second invité, Erwin Schürtenberg, ambassadeur de Suisse à Pékin, est un bouddhiste convaincu, en tout cas un homme hors cadre. Enfin, notre troisième et dernier invité, un confrère, Jean Leclerc du Sablon, correspondant dans cette ville pour Le Figaro. Mon compagnon technique de ce soir, Ivor Malherbe, se joint à moi pour vous souhaiter soit une agréable soirée en compagnie de Radio Suisse Romande La Première, soit si vous allez rejoindre Morphée, vous le saluez bien de ma part. À dimanche prochain, bonsoir. This woman, she knows the story of heartbreak beneath the weight of pain. She's seen the hate on people's faces, dark skin, her only disgrace. She cries, help me, please. Lord, help me, please. Her children, she told them how to be proud in the face of adversity. She gave them respect and understanding, showing them the way to be free. Lord, help her, please. Lord, help her, please. Lord, she's known hardship and sorrow.